Bonsoir Marie Sorbier.
Bonsoir Arnaud, nous sommes ce soir en ligne avec Romaric Daurier de la scène nationale du Phénix à Valenciennes. Hier, notre Premier ministre a finalement annoncé que les lieux de culture ne réouvriraient pas comme convenu le 15 décembre. Il y a la date du 7 janvier qui est évoquée, mais la ministre Roselyne Bachelot disait ce matin que c'était pas une date de réouverture, mais une date de revoyure, je crois que c'est le terme qui a été évoqué. Vous, Romaric Daurier, dans quel état ça vous a mis ces annonces hier soir ?
Dans une profonde incompréhension. Il faut, je pense, mettre cette annonce dans un contexte aussi. À mon avis, il y a une double erreur, c'est celle de maintenir ouverts les commerces et les lieux de culte et de ne pas réouvrir les lieux de culture. Je pense que c'est vraiment une double erreur par rapport à l'histoire de l'exception culturelle française. Ce serait réduire l'accès à la spiritualité par le seul biais de la religion, et ce serait de faire de la culture aussi un simple divertissement, alors que la question de la plus-value sensible, spirituelle, que la culture représente en France est complètement ignorée par cette décision.
On a l'impression que l'État pallie en annonçant des rallonges budgétaires. Est-ce que c'est selon vous une idée suffisante ?
Non, c'est absolument pas suffisant. Et encore là, je pense que c'est une erreur historique par rapport à l'histoire de la politique culturelle en France. Il y a aussi l'urgence des annonces et l'incompréhension qu'elle entraîne, alors que la culture, ça permet justement de sortir de ce présentisme, puisque c'est le lien entre le passé et puis aussi l'avenir auquel les œuvres d'art ont toujours contribué. Donc, ramener une solution uniquement du côté des chiffres, c'est aussi très pénible à entendre pour les hommes et les femmes qui la font vivre. Alors on peut parler des chiffres, hein. La culture c'est 657 000 emplois, et puis les artistes, et surtout les artistes du spectacle vivant, leur instrument de travail c'est leur corps. Donc les dispositions sanitaires ont été extrêmement bien respectées. Nous, par exemple, au Phénix, on a eu Boris Charmatz qui a travaillé avec 20 danseurs pendant une semaine en faisant des tests antigéniques tous les jours pour pouvoir travailler. Donc ils se sentent très très peu respectés, très très peu considérés dans leur métier.
Oui, c'est les allers-retours qui sont le plus pénibles, j'imagine, à vivre, que ce soit pour vous, directeur d'institution, ou pour les artistes qui ne savent plus quand est-ce que finalement leur travail va être montré.
Oui, absolument. Il y a cette question de la visibilité et puis aussi le fait de pouvoir avoir un horizon ensemble. Je pense qu'on peut tout à fait s'adapter, mais en concertation. Là, on a un peu l'impression, il y a le philosophe Mathieu Bottebenneville qui avait un mot ce matin qui était assez juste. On a l'impression qu'on a fermé les lieux culturels, un peu comme on a éteint la Tour Eiffel pour le symbole, alors qu'il n'y a aucune raison sanitaire aujourd'hui qui nous semble scientifiquement solide pour fermer nos lieux.
Et aucune raison objective n'est donnée d'ailleurs.
Oui, c'est peut-être un peu le brassage, mais quand on voit comment les choses se passent dans les commerces ou les transports, on doute de cet argument, oui.
Comment un lieu comme le Phénix envisage les prochaines semaines concrètement ? Est-ce que vous envisagez une ouverture en janvier ? Comment on prévoit ?
Alors il y a la question de permettre aux artistes de pouvoir répéter, créer, être sur les plateaux, c'est la première chose, hein. Je pense que le ministère de la Culture en France, c'est un grand ministère de l'offre, c'est un ministère de la création, et il faut absolument être près des artistes pour leur permettre de surmonter cette épreuve. Donc les répétitions sur les plateaux nous ont permis tout de même de pouvoir pouvoir continuer à travailler. Et puis après, effectivement, ce qu'on demande, c'est de la concertation, de pouvoir travailler ensemble sur des horizons et des dates qui permettent de pouvoir travailler sérieusement. C'est ce qu'on a fait dans la région de France. On a fait un collectif régional arrêt culture. On dialogue avec la région et on essaye, par la mise en place de fonds d'urgence, de solutions, de pouvoir s'adapter à des métiers.
Et justement, si on parle aussi de l'autre côté de la scène, du public, le lien que vous pouvez garder avec le public, vous le sentez présent, vous les sentez à vos côtés, ou quand même la lassitude commence à gagner ?
Non, on les sent à nos côtés. Nous, par exemple, on a annulé depuis le confinement près de 70 représentations et on est sur un bassin de population de 350 000 habitants où il y a 40 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. Donc la culture est absolument pas faite pour un public bourgeois et parisien. Nous, on a 13 000 jeunes et scolaires qui viennent par an découvrir nos propositions en art vivant. Donc là, aujourd'hui, on sent une très très forte envie et un très fort besoin, notamment du côté de la jeunesse, du côté des étudiants. On a pris le parti face aux difficultés qu'ils rencontrent de faire la gratuité sur les semaines à venir pour leur permettre de découvrir les œuvres. Donc il y a une très très forte appétence des publics. Le problème, c'est que là, les familles de Valenciennes vont passer leurs après-midi à Auchan dans la galerie commerciale avec un brassage énorme et n'ont pas accès aux lieux culturels. Donc là, il y a une vraie incohérence.
On a l'impression, et ce sera ma dernière question, que le gouvernement méconnaît finalement l'écosystème que représente le secteur du spectacle vivant, puisque c'est ça dont on parle ce soir. Avec ces mesures qui tendent à pallier, donc au niveau financier uniquement, on l'a dit, il y a un manque, j'ai l'impression, pour les institutions comme pour les artistes, d'accompagnement de fonds.
Oui, je crois qu'il y a une profonde incompréhension. Je pense qu'on on a vu cette tendance ces dernières années à sans cesse renvoyer la culture à une part économique. Là maintenant, on passe derrière la nécessité commerciale, alors que je rappelle que la culture, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution de 1954, chapitre 13, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Donc je pense que la mission de service public, l'État doit garantir cette mission de service public. Donc il y a une profonde incompréhension, on a l'impression que l'économie a dominé le débat.
Merci beaucoup Romaric Dorier.
Et merci à vous Marie Sorbier.